13, simplement. Hébreux, chapitre 13. Hébreux 13, et verset par verset, nous laisserons la parole nous parler. Hébreux 13, verset 1er. Hébreux 13, verset 1er. Persévérez dans l'amour fraternel. Amen. L'amour fraternel demande des efforts, demande de la volonté, de la patience, de la constance. Persévérez dans l'amour fraternel. Un couple doit persévérer dans l'amour conjugal. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Dans une église, nous devons apprendre à persévérer dans l'amour fraternel. Cet amour n'existe pas dans ce monde. Il n'existe que en Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour l'église. Alors nous pouvons, comme lui qui a persévéré jusqu'à donner sa vie sur la croix, persévérons nous aussi dans l'amour fraternel. Verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Amen. L'hospitalité, c'est ouvrir sa maison à des inconnus. C'est-à-dire secourir chez soi celui qui en a besoin. Nous sommes dans une société individualiste, moderne, française, très éloignée de cela. Mais pourtant, la Bible dit que si nous ouvrons notre maison, parfois des anges peuvent être logés, allusion à un récit de l'Ancien Testament où cela est vraiment arrivé. Des anges ont été logés. Alléluia. Alors nous avons certainement peut-être besoin, bien aimé, dans notre service, d'envisager l'hypothèse qu'un jour, nous puissions peut-être recevoir quelqu'un à la maison pour le secourir par l'hospitalité. S'il y a des nouveaux que le Seigneur nous envoie, je crois qu'on ne va pas les gagner qu'en les faisant venir à la réunion et puis bonjour, bonsoir. Mais il faudra s'en occuper et ouvrir notre maison parfois pour les inviter à manger, pour pouvoir parler avec eux, pour pouvoir les aider, les secourir. Amen. Donc, amour fraternel, c'est entre nous. Hospitalité, juste après, c'est ouvert vers l'extérieur. On continue, verset 3. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Nous pensons beaucoup à nous, et à notre confort, la parole de Dieu nous demande de penser à ceux qui n'ont pas ce confort et qui sont même emprisonnés. Comment ? Dans la prière, dans les dons missionnaires pour l'Église persécutée, et parfois même en visitant. Parce qu'ici, il est parfois possible, c'est un peu plus difficile actuellement, mais d'aller visiter. Jésus a dit que quand on va visiter quelqu'un, c'est lui-même que l'on visite. Amen. Verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Amen. Le mariage doit être honoré. Non au divorce. Non aux coucheries extra-conjugales. C'est souiller le mariage. Le mariage doit rester propre. Pour que le mariage reste propre, il faut la fidélité entre les époux. Amen. Alors, le lit conjugal, ça veut dire aussi qu'il y a une vie intime, que Dieu veut. Et le danger, s'il n'y a pas de vie intime dans le couple, c'est d'exposer l'autre ou soi-même à la tentation. Mais que le lit conjugal soit exempt de souillure, la relation sexuelle n'est pas sale, elle n'est qu'une souillure quand c'est en dehors du mariage. Mais dans le mariage, le lit est propre. Alléluia. Dans la fidélité conjugale. Alors, c'est vrai que dans ce monde, peut-être qu'on ne voit pas beaucoup cela autour de nous, mais c'est beau que dans l'Église, on voit quelque chose de propre, alors que partout autour de nous, c'est sale. C'est l'exemple que Dieu, ce que Dieu veut, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est beau. On continue, verset 5. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. » La parole de Dieu parle des sujets qui nous concernent, la sexualité et l'argent. Versets 4 et 5, c'est ce qui gouverne le monde. Et à ce propos-là, la parole de Dieu nous dit d'arrêter d'en vouloir plus. Mais au contraire, se contenter de ce qu'on a parce que le Seigneur y prendra soin de nous. La foi, c'est ça aussi. La foi, c'est pas vouloir toujours se garantir un capital, mettre de côté, travailler toujours plus pour se sécuriser. Notre sécurité, c'est le Seigneur. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent de côté. L'Écriture nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, même si vous ne savez pas mettre de côté, parce que le Seigneur est notre aide. Et il nous fera grâce. Alléluia. Alors, chers amis, arrêtez d'aimer l'argent, mais il vaut mieux aimer le Seigneur. Alléluia. On continue, verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme ?» Hein, c'est dans la même pensée, Dieu s'occupera de nous, il nous aidera dans les problèmes financiers éventuels. Verset 7, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Amen. Alors, moi, j'ai connu des conducteurs, des hommes de Dieu, hein, qui m'ont formé même, et qui sont morts. Et ils sont en moi. Leur mémoire est en moi. Il m'arrive régulièrement de penser à eux, de me rappeler leurs conseils, ce qu'ils ont pu me dire, et de me souvenir avec bonheur qu'ils ont bien fini. Hein ? Regardez leur fin et imiter leur foi. Alors, il y a, malheureusement, on a connu autre chose que cela aussi. On a connu des conducteurs qui ont mal fini, mais béni soit Dieu pour ceux qui ont bien fini et qui peuvent être un héritage pour nous tous. Amen. Hein, je ne sais pas si ça, vous le vivez comme cela aussi, mais l'Écriture vous le demande. Je suis un conducteur pour vous actuellement, mais vous avez eu des conducteurs qui sont morts dans le Seigneur. Mais eux aussi peuvent quelque part continuer de vous conduire par l'exemple et les conseils que vous avez reçus de leur part. Dieu soit béni. Verset 9. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que les hommes meurent, les hommes de Dieu meurent, mais pas Jésus-Christ. C'est intéressant de voir là la juxtaposition de ces deux versets. Un appel à avoir en mémoire les conducteurs, mais le plus important, c'est Jésus-Christ, qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne meurt pas. Alléluia. Et c'est lui que nous suivons. Notre foi n'est pas placée avant tout dans les hommes, elle est placée dans le Seigneur Jésus. Verset 9, « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui y sont attachés. » Alors, l'homme de Dieu ici fait allusion à l'importance que les Juifs avaient de ne pas manger certaines choses. Aujourd'hui, pour mieux comprendre, il y a par exemple dans la religion musulmane, on interdit certains aliments. La parole de Dieu nous dit que il faut que notre cœur soit affermi par la grâce, pas par des règles alimentaires. Les règles alimentaires n'existent plus pour les enfants de Dieu. En fait, ce qui compte maintenant, c'est la grâce de Dieu. Ce ne sont pas des règles, des pratiques religieuses qu'il faut faire et qui nous rendraient meilleurs que d'autres. La nourriture ne change rien à nos vies. C'est ce qu'il y a dans le cœur qui compte. Et il faut non pas vivre pour le ventre, mais pour le cœur, et que le cœur soit affermi par la grâce de Dieu. Parce que les aliments, c'est pour le ventre, mais la grâce de Dieu, c'est pour le cœur. Alléluia. Alors, dans la même pensée, il continue. Hein, alors, nous sommes au verset 10, merci. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Pourquoi il dit ça? En fait, il fait allusion aussi à un type de sacrifice de l'Ancien Testament au sujet duquel il était interdit de manger la viande. Il y avait des sacrifices où on pouvait manger la viande, surtout le sacrifice de reconnaissance. Mais il y avait des sacrifices que l'on offrait à Dieu, des animaux, et Dieu disait, c'est interdit de manger l'animal une fois qu'il est sacrifié, même qu'il est cuit. Interdit. Alors, pourquoi? Eh bien, on continue. Verset 11. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le sacrificateur pour le péché sont brûlés et pas mangés hors du camp. Alors là, on comprend que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ce qui a fermé la, ce qui a fermé le croyant dans le cœur, c'est la grâce. C'est pas de s'interdire de manger ou de favoriser d'autres nourritures. Ça, c'est pour le ventre. Et d'ailleurs, nous, on a un sacrifice qu'on ne peut pas manger, c'est un sacrifice pour le péché. Et quand un animal était sacrifié pour le péché, comme c'était pour le péché, tout était mauvais, tout devait être brûlé. Et on ne pouvait pas s'en alimenter. Jésus-Christ est mort pour nos péchés, pour vos péchés. Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, nous n'avons pas un sacrifice en Jésus-Christ pour le manger, mais pour croire en sa grâce. Le cœur est affermi par la grâce. Continuons, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. C'est vraiment ce qui est arrivé. Jésus-Christ est mort sur le mont Golgotha. Et le mont Golgotha est une colline en dehors de l'enceinte de Jérusalem. Il a dû souffrir hors de la porte de Jérusalem. Il y a encore aujourd'hui dans nos villes des fois des anciennes portes que l'on peut voir. Alors c'est pas des portes comme ici, vous en avez. C'est des portes qui faisaient partie de murailles. C'était des accès aux villes. Eh bien Jésus-Christ est mort hors de la porte. Il a dû aller hors de la ville de Jérusalem, mourir sur le mont Golgotha, à la croix. Et pourquoi il a dû mourir là, en dehors de Jérusalem? Bien parce que tous les sacrifices pour le péché, depuis des centaines d'années, étaient à chaque fois brûlés en dehors de Jérusalem. Christ est mort en dehors de Jérusalem parce qu'il a porté en dehors tous nos péchés. Alléluia. Tous nos péchés. Alors verset 13, il dit, « Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. » Ça, c'est une parole très forte quand on comprend l'auteur de quand on connaît l'Épître aux Hébreux. Il dit ici, sortez du judaïsme pour aller à Jésus-Christ. Les Hébreux étaient des Juifs qui avaient cru au Seigneur Jésus, mais qui étaient tentés de revenir au judaïsme. Et là, l'homme de Dieu dit, Christ est mort en dehors de Jérusalem, hors de la porte du judaïsme. Vous donc, si vous voulez croire en Jésus, vous devez sortir de la Jérusalem terrestre pour aller au Sauveur, afin de connaître la Jérusalem céleste. Alléluia. Toute conversion va vous réclamer de sortir de votre religion. Pour avoir ses péchés pardonnés, il faut aller là où Christ est allé. Là où Christ est allé mourir pour vos péchés. Si vous voulez que vos péchés soient pardonnés, il faut sortir pour aller à lui. Il faut sortir de votre religion pour ne croire qu'en Jésus-Christ et en sa mort parfaite sur la croix. Et il n'y a que là que vous aurez la certitude du pardon. Aucune religion ne vous donnera jamais la vie éternelle ni le pardon. Il n'y a que le Sauveur qui est mort hors de Jérusalem, hors du judaïsme, hors de tout système, mais qui réclame cette conversion de sortir pour aller à lui, sortir de vos péchés, sortir de votre vie actuelle, pour aller à la croix, là où il y a la rédemption de tous nos péchés. Verset 14, « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » La Bible enseigne que Dieu est en train de nous préparer une cité, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et il y a un passage dans la Bible qui nous dit que cette Jérusalem céleste, un jour, elle descendra du ciel d'auprès de Dieu pour s'établir. Et alors nous connaîtrons la gloire à jamais. Alléluia. Il fallait sortir de cette Jérusalem terrestre pour chercher celle qui est à venir. Il n'y a rien de permanent ici, vous savez, on va tous mourir et la terre entière va même être détruite. Il n'y a rien de permanent. Les seules choses qui sont permanentes, ce sont les choses célestes. Alors continuons, verset 15. Par lui, donc par Jésus, offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alors, autrefois, il y avait des sacrifices d'animaux. Ça s'est terminé avec le dernier sacrifice, celui du Fils de Dieu, hors de la porte. Mais depuis, on peut faire de nouveaux types de sacrifices. Plus des sacrifices d'animaux, mais des sacrifices des lèvres. Des sacrifices de louanges pour confesser le nom du Seigneur. Amen. Alors, ce n'est pas pour le pardon de nos péchés. Le sacrifice pour les péchés, c'est Jésus-Christ qui l'accomplit. Mais ce sont des sacrifices de reconnaissance, des sacrifices de louanges. Quand on se convertit, alors on devient adorateur. Et on commence, alors qu'on était blasphémateur, ben on loue le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il a accompli tout cela pour nous. Verset 16, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alors, pas que la langue, pas que les paroles, mais les gestes, les actes, libéralité, bienfaisance. Bienfaisance, c'est faire du bien, rendre des services. Libéralité, c'est donner de l'argent à ceux qui en ont besoin. Parce que ça, c'est un ensemble de sacrifices. Le sacrifice de lèvres, mais le sacrifice aussi en action. Que nous ayons ces sacrifices pour le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, Dieu était glorifié par tous les sacrifices qui étaient apportés au temple. Nous voudrions aussi, dans notre assemblée, glorifier Dieu par une richesse de sacrifices, de louanges, de bienfaisance et de libéralité. Amen. Alors dans l'assemblée, vraiment, le matin, au culte, prenez votre place. Faites votre sacrifice pour le Seigneur. Amen. C'est une réponse à son sacrifice. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alors, on a parlé, verset 7, les anciens conducteurs dont il faut se rappeler pour imiter leur foi. On a dit que Jésus-Christ, c'est lui qui est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours, et c'est lui que nous suivons. Et puis il y a les conducteurs qui vivent encore, là, au verset 17, et il y a un mot terrible, un verbe terrible, c'est le verbe obéir. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime forcément, mais l'Écriture dit « obéissez à vos conducteurs ». Et il y a quelque chose de, quand je le lis, ça me concerne, donc je trouve ça important. On va devoir rendre compte de vos âmes. C'est quelque chose quand même. Donc c'est vrai que des fois je me dis, oui mais David, c'est à toi que Dieu va demander des comptes. Donc parfois il faut faire des choix, il faut prendre des décisions, parce que c'est pas vous qui allez rendre compte, c'est moi. Et ça c'est une responsabilité. Alors, priez pour nous, priez pour moi, priez pour les conducteurs, amen, pour qu'ils puissent acquitter leur responsabilité à la gloire de Dieu. Et puis ce que j'aime beaucoup dans ce verset 17, c'est ce côté pragmatique, honnête, où il dit, vous savez, si vous n'êtes pas, je le dis comme ça, si vous n'êtes pas gentil avec les conducteurs, ben ils vont pas être bien. Et quand un conducteur n'est pas bien, ça ne va pas être bon pour l'Église. Hein? On le relit ensemble et dit, qu'il en soit ainsi, donc qu'il en soit ainsi ce respect qui est dû, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ça, c'est toujours ma peur. Je veux toujours être heureux de servir le Seigneur. Alléluia. Mais il ne faut quand même pas demander l'impossible. Je ne parle pas de moi là. Mais il ne faut pas demander l'impossible. C'est normal des fois qu'il y a des pasteurs qui étaient fatigués. Parce que des fois, quand l'assemblée, parfois, des assemblées ont été indociles, rebelles, fatigantes, toujours fatigué le pasteur, bah, des fois il y a des pasteurs qui ont fait des erreurs, qui n'étaient pas toujours heureux. Et ça n'a pas été bon pour l'Église. C'est certain que ça n'a pas été bon pour l'Église. Oui, mais si l'Église l'a fatigué, c'est aussi en partie de la faute de l'Église. Alors j'aime bien ce côté très pragmatique, très concret, où on est loin de l'idéalisme, de dire, mais de toute façon, le serviteur de Dieu, il doit toujours être bien disposé. Eh bien ici, il est dit, vous savez, si vous lui rendez la vie trop difficile, à un moment donné, il va le faire, mais en gémissant. Que le Seigneur me permette de ne jamais gémir, mais de toujours rester heureux dans le Seigneur. Mais je ne parle pas pour moi, vraiment, parce que franchement, je vais bien, mais je parle pour être un petit peu compréhensif. J'étais très dur avec mes collègues pasteurs, et j'ai dû m'en humilier. Parce que j'imaginais qu'un pasteur, il doit toujours être parfait, il doit toujours tout encaisser, et pas faire d'erreur. Mais ce n'est pas juste. Ce ne sont que des hommes. Et ce verset, ça veut un peu dire ça. Vous savez, ce ne sont que des hommes. Si l'Église est épuisante, à un moment donné, ils vont gémir. Ayons de la compréhension pour les serviteurs de Dieu. Amen. Vous entendez peut-être parler autour de vous actuellement. Moi, j'en entends parler. Je sais qu'il y a des serviteurs de Dieu qui n'en peuvent plus. Et il y a de grandes souffrances parmi les pasteurs. On parle souvent des églises, des chrétiens. Mais il y a des pasteurs qui souffrent beaucoup, mais qui font comme si ça va bien. Parce que ça ne se dit pas qu'on n'est pas bien quand on est pasteur. Eh bien non, nous voudrions être une assemblée qui prie aussi pour les serviteurs de Dieu. Amen. Et qui demande la grâce du Seigneur. Et avoir peut-être un peu de compréhension. Il y a des pasteurs qui font des erreurs, c'est certain. Mais moi, je me souviens d'un de mes formateurs. J'ai à un moment donné été critique à son égard dans mon cœur. Et c'est plus tard que j'ai compris qu'il avait une grosse assemblée et que c'était vraiment pas facile pour lui à gérer. Mais vraiment pas facile. Et que c'était normal que parfois, il n'en pouvait plus. Moi, je me souviens d'une réunion. Allez, je me confie un peu. C'était le mercredi soir, une étude biblique. J'étais au premier rang. Je l'entendais prêcher. J'étais énervé. Énervé. Parce qu'il se défoulait sur l'église, parce qu'il n'en pouvait plus. J'étais énervé, mais j'aurais mieux fait ce soir-là de me dire, le frère, il est en train de gémir. Et il faut peut-être l'aider. Amen. Rassurez-vous. Verset 18, continuons. Priez pour nous. Ah ben justement, c'est très bien. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Alors là, je vais profiter du texte, priez pour moi. Priez pour moi, pas que je sorte de prison, mais pour que le Seigneur me fasse grâce, nous travaillons ensemble. Verset 20, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors, le Dieu de paix, le grand berger, l'alliance éternelle, que de choses. Le Dieu de paix. Non, Dieu n'est pas un Dieu agressif, brutal, guerrier. C'est un Dieu de paix. Soyons enfants de paix. Amen. Le grand berger, dans ce chapitre, plusieurs. Il y a les conducteurs qu'il faut imiter, il y a Jésus-Christ, il y a encore ici les conducteurs auxquels il faut obéir, mais encore il revient, le grand berger, c'est le Seigneur Jésus. Nous n'avons pas de pape. Le berger des bergers, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Notre berger à tous. Et l'alliance éternelle, là aussi, c'est fort dans le contexte de l'Épître aux Hébreux. Toute l'Épître aux Hébreux, vous pourrez regarder, joue sur un mot qui veut dire la même chose en grec, alliance et testament. Et l'Épître aux Hébreux va très loin, elle démontre que l'ancienne alliance est terminée et que débute une nouvelle alliance. Et ce qui est caractéristique de cette nouvelle alliance, c'est qu'elle est ici appelée, en conclusion de l'Épître, l'alliance éternelle. La première alliance était provisoire, elle a duré quelques siècles. Mais la nouvelle et seconde alliance ne finira jamais, elle est éternelle. D'ailleurs, ce que nous vivons, d'après le Nouveau Testament, ce ne sont que les prémices de ce qui se vivra pour toujours. La nouvelle alliance est éternelle. Alléluia. Verset 22, je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Donc ça va, 13 chapitres, c'est brièvement. Donc il paraît que, au temps de la réforme, les prédications duraient 4 heures. Et ici, il est dit que 13 chapitres, c'est bref. Verset 23. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. Alors là, on apprend ici que comme Paul, Timothée aussi a souffert la prison. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs, encore question des conducteurs, et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Amen. Oui. Ce respect. Cette collaboration, si Timothée est relâché, je viens avec lui. La collaboration. Dans l'Écriture, c'est fort, les serviteurs de Dieu n'étaient jamais seuls, ils collaboraient. La collaboration. Et puis, le respect. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que c'est beau la parole. Quand on voit ces salutations qui ne sont pas que des formules de politesse, mais l'expression de respect et d'amour fraternel. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà un beau chapitre. Que sa parole puisse nous avoir été utile. Et ce qu'il y aurait à retenir pour quelqu'un qui serait perdu, c'est qu'il faut sortir vers lui pour être sauvé. Sortir de votre vie actuelle pour aller à où Jésus a donné sa vie en sacrifice pour vos péchés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions, s'il vous plaît.